Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
h 45 dans le bureau de Par Jupiter.
Beauté et soins pour les hommes, c'est intéressant. Ouais, c'est
donc, ouais, comme je vous le disais, l'axe du sujet 3,
comment
ce serait plus
bien taillé sa barbe en fonction de la forme de son visage.
Bon, c'est Guillaume, c'est quoi ton sujet
attends,
à toi
pas voir, Alex,
les meilleures crèmes de jour pour hommes.
Ça va, là, je vous dérange pas. Vous préparez l'émission toute seule ou quoi?
Mais non, nous aussi on se prépare justement.
En lisant des tutos beauté, non mais Alex, ça c'est un petit peu sérieux.
Non mais attends, mais c'est des trucs sérieux. Le gars, il a même fait un livre aux éditions Larousse.
Un vrai livre, c'est l'attaché de presse qui nous l'a envoyé.
Dis-moi, il était dans quelle caisse ce livre? Ça fait 5 ans qu'on a 2 caisses.
Oui. Hein.
On reçoit 20 livres par jour. Oui. Ceux dont on ne parlera pas, on les met dans cette caisse-là. Ceux dont on va parler, c'est l'autre.
La petite boîte, là.
Oui, d'accord. Non, parce qu'on ne peut pas parler de tout le monde non plus.
Et qu'est-ce qu'il a écrit, notre invité du jour?
C'est une chanteuse. Formidable. D'accord. Raphaël Lanader, elle.
Alors c'est pour ça, Claude, il a sorti le livre sur les tutos beauté.
Pas du tout.
Ah, d'accord, il est amoureux de Raphaël Lanader.
Mais non, rien à voir.
Ok, je comprends, d'accord. On reçoit une chanteuse qui reprend du Barbara. Toi, tu t'épiles les sourcils, quoi. C'est cohérent.
Barbara a des très beaux sourcils.
Regarde, attends, et à côté, dans la même caisse, il y a un livre pour demain.
Quoi? Comment se remettre d'un échec sentimental?
C'est malin.
On va pas le recevoir non plus, cet auteur.
Et là, en dessous, regarde ce qu'il y a. Socio-économie du Nicaragua sous Daniel Ortega.
Quoi? Mais c'est passionnant, c'est génial. Mais pourquoi on l'a mis dans cette caisse, là? On pourrait inviter l'auteur. C'est une sociologue, unijambiste en plus.
Ah ouais, super.
Mais qui l'a mis dans la mauvaise caisse?
Alors là, vraiment, je ne sais pas qui aurait pu faire ça.
Bonjour la France Inter, vous écoutez la start-up de la radio publique dont la devise du jour est « Mieux vaut être seul en one-to-one que mal accompagné en B2B ». Et voici le sommaire du PowerPoint qu'on va dérouler jusqu'à 18h. Les Français ne font plus confiance ni aux politiques, ni aux journalistes, ni aux intellectuels, ni aux militants associatifs, ni. Sauf aux infirmiers et aux pompiers, heureusement. On va vérifier ce sondage tout de même, hein.
J'aurais jamais dû le lire, ce journal. On le savait pourtant que c'était que des menteries dans les journaux, des âneries de députés pour embêter le pauvre monde.
Le paquet de cigarettes augmente de 50 centimes aujourd'hui. Il coûte 9,30€. Les gens trouvent le tabac démodé, mais ils n'ont de toute façon plus les moyens de se les payer. Le tabagisme recule et demain démarre le mois sans tabac.
L'enfer, c'est le dernier endroit où on peut fumer en France.
Pour les artistes, il y a une vie après la mort. Show must go on post-mortem, comme on dit en latin anglo-saxon. Johnny a déjà sorti 2 albums depuis qu'il est mort. Il bosse énormément. Maria Callas et Whitney Houston partent en tournée d'hologramme aussi.
Plus elle est morte, plus les gens l'adorent, alors.
Et voilà. Alex Vizorek, oui, c'est vous qui faites l'appel.
C'est pas ça, c'est que j'ai une belle équipe, figurez-vous, aujourd'hui autour de la table à 17h20. Celle qui connaît tellement bien la musique que parfois on a l'impression qu'elle invente les musiciens qu'elle nous présente. C'est Mélanie Bauer, bonjour.
Oh, j'aimerais tellement. Aujourd'hui, peut-être un inédit. Peut-être pas un inédit, il y aura un suspense incroyable autour de l'invité.
Mais j'ai l'impression que ça sent bon quand même. À 17h30, quand, sur une grosse affaire, les gens qui savent ne suffisent plus, il part prolonger l'enquête en interrogeant les gens qui ne savent pas. C'est la méthode Guillaume Meurice.
C'est vrai, bonjour à tous. Et chronique à la cool. Aujourd'hui, je suis allé voir des militants du Rassemblement National pour leur parler de l'attaque de la mosquée de Bayonne.
Non, je pense pas que ce soit vraiment une attaque.
Oui, pardon, du barbecue qui a mal tourné. On va appeler ça.
Et enfin, 17h40, celui qui nous explique tout ce qu'on ne comprend pas, autant vous dire qu'il a un avenir assuré dans cette émission. Le drôle d'oiseau de l'équipe, Max Bird, bonjour.
Bonjour, on va parler de suprématie quantique aujourd'hui.
Oh, ouh là là, ça donne envie. Et voici celle qui va enchanter notre open space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes...
Alors, je vais dire elle. Ouais. Raphaël Lanader.
Oui. Yes.
J'ai vérifié, c'est les deux, c'est la même.
France Inter, Berlin, Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Oui, car hier, notre invité, Jean-Luc Bidault, m'a rebaptisé Berlin toute l'émission. On l'embrasse. Je suis sûre qu'il nous écoute depuis Genève avec son épouse. On les embrasse très, très fort. Et aujourd'hui, c'est Raphaël Lanader qui nous accompagne. On est très, très heureux, Raphaël Lanader, que vous soyez avec nous. Et vous nous présentez un très joli spectacle que Alex Vizorek a beaucoup, beaucoup aimé.
C'est vrai.
Qui s'appelle Un jardin de silence.
C'est une référence, rigolez pas. Hein, ça.
Non, c'est vrai.
Quand j'ai beaucoup aimé, c'est pas tous
quand
les jours,
aime vraiment fort, on le dit. Quand on pense pas grand-chose, juste on ne dit rien.
Voilà. Merci Titanic, vous. Ça décollait pas, Alex a dit qu'il avait aimé.
Voilà. Donc avec vous, Raphaël Lanader, avec Thomas Joly, qui met en scène notamment, et avec Babix.
Moi, je suis un fou des hommages à Barbara, j'ai quasi tout vu, j'ai été voir Depardieu, j'ai vu Juliette Binoche, j'ai même regardé le film d'Amalric jusqu'au bout, et c'était pas donné à tout le monde. Et ici, je suis... Non, j'ai beaucoup aimé. En 2011, vous recevez le prix Barbara du ministère de la Culture, un certain Frédéric Mitterrand vous le donne, et ça s'ouvre là-dessus, c'est-à-dire que c'est Thomas Joly qui fait Frédéric Mitterrand et qui fait un petit discours comme ça, plein de poncifs.
C'est le vrai discours.
Mais je sais bien. Mais on sent qu'il le surjoue un petit peu pour montrer qu'il y a pas mal de poncifs sur cette grande chanteuse. Alors comment on fait pour lui rendre hommage sans la trahir et sans tomber dans les facilités?
C'est très difficile, très franchement. Et je ne sais pas si on voulait lui rendre hommage. C'est peut-être pour ça que ça ne s'est pas si mal passé.
Quand même.
C'est possible.
Mais au-delà de ça, vous dites ce spectacle est pour moi une façon de tuer la mère.
Un peu, également.
Donc c'est un hommage jusqu'au bout de la chose.
Tout à fait. Mais parce que c'est vraiment Barbara, une de mes mamans de musique, ça c'est certain. Et effectivement, en 2011, quand j'ai sorti mon premier album, on m'a beaucoup, beaucoup parlé d'elle. Et à un moment... il a fallu que je sorte un petit peu de carcan. Donc, quelque part, c'est à la fois pour la tuer et me réconcilier avec elle aussi, je pense.
Il y a du Patrick Sébastien aussi dans ce que vous faites.
C'est une autre de mes idoles, mais voilà. Ça, c'est pour le prochain spectacle.
Okay, oui, c'est pour tuer le père.
C'est vous qui avez eu l'idée et l'envie de ce spectacle, parce qu'on pourrait imaginer que ça vient de Thomas Joly, qui est metteur en scène à la mode et tout. Mais alors, quand je dis ça, comment vous tombez dessus et comment vous le parvenez à le convaincre de mettre en scène ce
Thomas
spectacle?
Thomas Joly, je suis tombée sur lui. Ici même, enfin pas dans ce studio-là, mais un matin à 7h. Donc c'était difficile pour l'un et l'autre.
À France Musique.
Exactement. Et tous les deux, je crois qu'on s'est entendus parler, enfin chanter pour moi, bien sûr. Et on est un peu tombés amoureux humainement et artistiquement. Et on a eu, je pense, envie de faire quelque chose ensemble assez vite. Après, on s'est parlé sur les réseaux sociaux, parce que de temps en temps, il m'arrive de les utiliser.
Bah dis donc, lui vous répondez.
Assez peu.
Hein, je note. Alors, il y a un troisième homme sur scène, un certain Babix, qui vous accompagne au piano, évidemment. Vous poussez le mimétisme à être Barbara, parce que Thomas Joly joue le journaliste, joue le Frédéric Mitterrand, joue pas mal de rôles. Babix interprète l'une ou l'autre chanson. Mais vous... La ressemblance, il y a quand même confusion presque.
Alors l'idée était vraiment pas du tout limitée.
C'est raté. Je dis pas en chanson, mais je veux dire visuellement.
Oui, je suis habillée tout en noir, mais...
Grande lunette.
Oui, bien sûr.
Elle est un peu blonde, Raphaël, quand même.
Mais j'ai pas de perruque, par exemple.
Mais les lumières
tout
vous,
à fait blonde.
Vous rendent confusante.
Alors...
Mais
confusante, c'est très bien.
Oui.
Mais alors, c'était pas l'idée limitée.
Thomas Joly, en tant que politique, en tant que journaliste, vous vous moquez des deux, j'ai l'impression. Oui. C'est-à-dire que, est-ce que c'est Barbara qui ne les aimait pas?
Tous ces mots. Pareil. Oui. Ce ne sont que les mots de Barbara.
Et les mots des journalistes, j'imagine, dans les interviews. Est-ce que vous-même, c'est deux corps de métier sur lesquels vous êtes vigilant en tant qu'artiste, les journalistes et les politiques? Alors ça rejoint pendant le sujet 1.
Oui, vous êtes en train de me faire mon sujet. Non, mais c'est pas grave, allez-y.
Certainement. Enfin, les journalistes, c'est très variable. C'est-à-dire que parfois, on passe des moments extraordinaires.
Comme ici.
Voilà, tout à fait. Et parfois à l'inverse, et notamment par exemple, moi le jour où on m'a remis ce prix, c'était, je me souviens encore d'une des questions les plus débiles et loufoques qu'on m'a posées. Je ne comprenais même pas la question. Enfin, ça venait peut-être de moi, ceci dit. Mais...
C'était laquelle?
Est-ce que je sais plus quoi, enfin, il parlait de chansons protéiformes française, et vraiment ça m'est resté.
Ah bon,
ça on n'aurait pas dit parce qu'on ne connaît pas le mot, donc ici il n'y a aucun
exemple. Non, mais pareil,
moi, j'ai pas compris.
Raphaël Lanader, alors moi je n'ai pas encore vu le spectacle, quoi. C'est Alex Vizorek qui l'a vu, mais j'ai beaucoup lu dessus, et je lis que vous sortez des sentiers battus. Barbara a été beaucoup reprise, on l'a dit, et vous emmenez le spectateur, et l'auditeur donc, un peu ailleurs, sur d'autres facettes de Barbara, lesquelles?
Je crois. Et alors, c'est-à-dire que quand on a réfléchi à ce spectacle et qu'on l'a construit avec Thomas, on a relevé des quantités astronomiques d'interviews d'elle et on s'est bidonné. Mais c'était fou.
Donc c'est l'humoriste, hein, clairement, qu'elle a rendu hommage.
Mais un peu. C'est-à-dire qu'elle est punk, elle en a vraiment rien à foutre de rien. enfin en tout cas, et elle est la même quand elle n'a aucun succès, quand elle débute et à la fin. Et ça, c'est extraordinaire. Mmh. Elle est vraiment d'une constance et d'une loyauté totale envers elle-même tout du long. Et surtout, elle est pétillante, elle est toujours très directe, très simple. Voilà.
Elle est assez honnête, en fait.
Bien sûr.
Oui, c'est ce côté-là et ce côté, l'élégance dans l'humour.
Tout à fait.
Que vous souligniez.
Dans le choix des chansons, moi qui connais très très bien, alors, il y a quelques-unes qui m'ont surprise. Voilà,
mmh. Lesquelles, par exemple, celles qu'on connaît moins bien.
La Joconde, par exemple, que je bien connais sûr. Moins bien. Mmh. Moi, après, il y a des trouvailles, Les Amis de Monsieur, qu'elle avait pu chanter, et d'autres chansons. Donc vraiment, allez-y. Et puis, on parle de la Barbara impliquée contre le sida. Et ça, effectivement, dans les hommages, on en parlait moins. Et c'était vraiment quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur.
Raphaël Lanader avec nous jusqu'à 18h. Un jardin de silence, donc, ça s'appelle, le spectacle. Vous pouvez le voir jusqu'à dimanche à la Scala de Paris. Et ensuite, vous partez en tournée. Vous passerez par Lille les 6 et 7 novembre, par exemple. Il y aura aussi Bayeux le 5 décembre. Je donnerai d'autres dates, parce que vous passez par Rouen, tiens, l'ami Rouennais. 10 et 11 janvier. Bien sûr, on embrasse fort les Rouennais, on vous oublie pas. Il est 17h18 sur France Inter. On écoute Martha and the Muffins, Echo Beach. I know it's out of fashion and a trifle uncool, but I can't help it, I'm a romantic fool. It's a habit of mine to watch the sun go down on Echo Beach. I watch the sun go down. Five, I have to spend my time at work. My job is very boring, I'm an office clerk. The only thing that helps me pass the time away is knowing I'll be back at Echo Beach someday. France Inter et Raphaël Lanader est avec nous et d'ailleurs elle va nous faire un petit cadeau tout à l'heure. Je pense qu'il y aura un inédit.
Oui, ça s'annonce de mieux en mieux.
Ça grignote dans ma chronique.
De technique, mais on y est arrivé.
Et qui pour l'entourer et en parler ?
Mélanie Bauer qui lancera ça avec talent. Guillaume Meurice, oui. Qui est à la rencontre du Rassemblement National.
C'est toujours un plaisir.
Toujours vendeur. Ouais. Et notre ami Max Bird qui nous parlera de ce qu'on ne comprend pas.
Allons-y sur l'information.
Quand un évenu a violemment attaqué deux fidèles après avoir voulu incendier la mosquée de Bayonne, ça n'est pas le pays du Béarn.
Le journal de presque 17h17.
À l'école, il n'avait que 5 sur 20 de moyenne en géographie.
De Guadalcanal.
Et on commence par les titres.
Oui, ce soir, c'est Halloween.
Oui, à cette occasion, vous croiserez peut-être des gens qui sont maquillés pour vous faire peur, ou vous croiserez peut-être Rachida Dati qui ne sera pas maquillée pour vous faire peur aussi.
Demain, le 1er novembre, voilà une nouvelle hausse du prix du tabac qui entre en vigueur.
Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Ça va peut-être réduire le nombre de fumeurs entre ceux qui vont arrêter et ceux qui vont se jeter par la fenêtre à cause de leur découvert.
Et les brèves.
On annonce également à partir de demain une hausse des brèves. Ça va être énorme. Ça va être énorme.
C'est le réchauffement humoristique, ça.
Ton chronier, soyons complets sur demain.
Oui, une autre hausse au 1er novembre, en plus de la cigarette, hein, c'est les tarifs du gaz qui vont augmenter à partir de demain de 3%.
Ouais, donc si vous êtes pauvre et que vous êtes fumeur et que vous vous chauffez au gaz, il va falloir choisir entre le cancer du poumon et la pneumonie.
Notons aussi que demain, c'est le début de la trêve hivernale, donc aucune expulsion locative ne peut plus avoir lieu, et ce jusqu'au 31 mars prochain.
Dommage pour Patrick Balkany, il va devoir passer tout l'hiver au chaud. Dans son 9 mètres carrés.
Politique justement, Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique, déclare que ce n'est pas le PDG d'EDF qui fait la politique énergétique de la France.
Bah, wow, c'est à quoi le PDG d'EDF aurait répondu, ça tombe bien, ce n'est pas Elisabeth Borne qui fait la politique écologique de la France non plus.
La République en marche toujours avec, on peut dire, son fer de lance.
Aurore Berger, sa flèche, bien sûr.
Invité de BFM TV, Aurore Berger a déclaré...
Qu'il y ait une colère dans le pays, oui, et d'ailleurs c'est sur cette colère qu'on a été élus.
Excellent, c'est vraiment très très bon. Et on constate qu'Aurore Berger a confondu Halloween avec le 1er avril.
Allez, on passe à l'international. À partir de 2022, le foie gras sera interdit à New York.
Et oui, les Américains, les foies malades et trop engraissées, ils ne veulent plus les manger, ça leur rappelle trop le leur.
États-Unis toujours, un rapport du Centre National des Statistiques de Santé aboutit à la conclusion que les overdoses réduisent l'espérance de vie.
C'est fou. Des heures de recherche, je veux pas trop avancer, mais il paraît que même la mort réduirait l'espérance de vie, mais c'est à vérifier.
Aéronautique, à présent, oui. Boeing immobilise une cinquantaine d'avions dans le monde en raison de fissures.
Oui, Boeing, parti comme ça, ils vont finir par racheter l'EPR de Flamanville.
Économie, 3,5 millions d'heures supplémentaires vont être payées aux policiers d'ici fin 2019.
Ce serait évidemment normal qu'Alexandre Benalla touche quelque chose là-dessus.
En effet, et des brèves.
Héros, ils chassaient les grives en diffusant leurs chants sur des enceintes connectées. C'est interdit, c'est strictement interdit, tout comme chasser la bécasse en diffusant du Céline Dion. C'est interdit.
Effectivement, la dernière.
Et la dernière, Toulouse. Il pique l'échec d'une nonagénaire et encaisse 15 000 euros, qu'on le veuille ou non. Le passage de Sarkozy à l'Élysée a créé des vocations.
Merci Alex Vizorek, il est 17h25 à Paris et dans la Meuse. Et Raphaël Nanader est avec nous, elle, vous la connaissez peut-être sous cette lettre. On va aborder ce premier sujet avec vous Raphaël. Le nouveau magazine littéraire a sondé la confiance des Français. Il se méfie énormément des politiques et des journalistes. Il se méfie à peine moins des intellectuels, des militants associatifs et des prêtres. Mais ils gardent leur confiance en Jean-Pierre Pernaut et le pape. Allez comprendre. Et si les politiques se liguent aux journalistes pour tenter de redorer leur blason, alors là, ça risque d'être pire, bien sûr.
Vous pouvez me dire combien je suis dans la cote de popularité des ministres ?
En hausse. 11e, 12e.
Alors ça, on ne saura jamais. Il ne casse que les 10 premiers. C'est humiliant, n'existe pas. Je suis quand même pas plus con que tous ces imbéciles. Attendez, moi aussi, je joue un rôle dans l'État, figurez-vous. Seulement eux, ils sont en gros sur l'affiche et moi je suis du côté de la colle. Il faut absolument que vous me fassiez rentrer dans ce putain de top 10. Oui. Pas envie de me retrouver rapatrié.
À chacun de tes déplacements, j'alerte les journalistes où ils ne viennent pas, où il n'y a pas de retombée. Qu'est-ce que j'y peux ?
C'est vrai ? Et qu'est-ce que vous m'avez fait faire depuis un mois qui aurait pu intéresser les journalistes ? Le 9, j'ai serré la paluche à l'Union nationale des associations de donneurs de sang bénévoles des postes. C'est passionnant ça ! Démerdez-vous comme vous voulez, mais il me faut un coup.
Thierry Lhermitte et... Est-ce que vous l'avez reconnu ?
C'est pas Michel Sardou ?
Si. Ah et Michel Sardou dans Promotion Canapé, un film de Didier Caminca, co-scénarisé par Claude Zidi, qui date de 1990. Voilà pour ce sondage paru dans le nouveau magazine littéraire, donc sur la confiance des Français. On voit bien que les politiques, les journalistes, les intellos, ça va pas bien, même les militants associatifs. Vous vous sentez un peu en phase avec ce sondage, Raphaël Lanader ?
J'avoue que... Je trouve que c'est quand même assez difficile d'avoir une confiance aveugle en nos hommes politiques, hommes et femmes, vu le nombre d'affaires absolument terribles et effroyables et d'argent qui pique. Mm-hmm. Voilà, il me semble que c'est compréhensible.
Et pour les journalistes, vous avez...
Je comprends moins, parce que déjà moi j'écoute la radio en boucle, quasiment tous les jours, toute la journée. Mm-hmm.
Qu'est-ce que vous écoutez comme radio?
Beaucoup France Inter et France Culture. Je switch entre les deux. FIP de temps en temps quand vraiment j'en ai ras le bol.
Service public donc.
Ça reste dans la maison.
Mais oui, ouais. Voilà. Je trouve que c'est plutôt très important d'avoir des journaux de qualité. Et puis voilà. Puis je lis Mediapart aussi et je trouve que. Mm-hmm. Je suis bien heureuse qu'il soit là pour nous informer un peu.
Alors, les gens de gauche ont beaucoup de confiance en Edu Plenel, les gens de droite, beaucoup moins. Mais c'est vrai. Mais c'est pas une blague.
Même
c'est vrai.
Les macronistes qui disaient qu'ils étaient de gauche avant, par exemple.
Oui, aussi. Ouais. Alors, ça, c'est
compliqué. Ouais.
Est-ce qu'il y a une autorité, quand même, en laquelle vous avez encore confiance? Vous avez dit le service public de radio, déjà, si j'ai bien compris.
Oui, je pense.
Mais est-ce qu'il y a éventuellement d'autres autorités, peut-être intellectuelles, une certaine...
Certainement, il y a des artistes, effectivement, qui peuvent avoir un éclairage particulier. Alors après, ou des scientifiques. Enfin, moi, pour le coup, je crois beaucoup en la science.
Et là, vous êtes en phase avec le sondage. Les Français, il y a les scientifiques, les pompiers, les infirmières.
C'est rassurant.
Et les enseignants.
parce qu'il me semble que dans le monde, par exemple, on se méfie maintenant aussi des scientifiques, souvent. Mm-hmm. Par exemple, on sait que maintenant, des gens croient vraiment que la Terre est plate. Donc on n'est pas rendu.
Attendez, vous insinuez quoi?
C'est vrai. Il y a une partie du dossier aussi qui s'intéresse aux héros du commun, comme Edgar Morin, le pape ou Grand Corps Malade.
C'est
génial.
Ça reste des figures dans lesquelles les gens ont confiance. Je me disais, cette défiance ou question de confiance, elle existe aussi dans le milieu culturel. Est-ce que dans le milieu culturel, on a ou confiance ou défiance envers certaines institutions?
Gad Elmaleh, on avait bien confiance à une époque.
Par exemple, c'est un exemple. Le milieu culturel est critique aussi envers les institutions qu'il chapeaute ou qu'il finance.
Oui, mais c'est-à-dire, est-ce qu'on doit avoir confiance? Moi, je ne sais pas. Par exemple, les programmateurs, souvent, moi, c'est plutôt des gens qui aident beaucoup les artistes, mm-hmm. comme moi, en tout cas. Enfin, ouais. Qui nous soutiennent, qui font en sorte qu'on existe. Là, par exemple, ce spectacle, on l'a créé grâce à Ghislaine Goubi de Vannes et les scènes du golf qu'elle dirige. Donc, je ne sais pas, moi, j'ai plutôt confiance aussi.
Ça veut dire que cette relation de confiance, elle crée un tissu, elle fait que les spectacles existent.
Dans le sondage, je crois que Ghislaine Goubi était 99% de
ça,
confiance.
Ça, hein. Ça ouais, parce très heureux.
Elle pique un peu dans la caisse. Elle
pour terminer sur ce sondage, chez les journalistes, il y a 50% des Français qui ont confiance en Élise Lucet, 50%, et 54% ont confiance en Jean-Pierre Pernaut.
On est peu de choses.
Et l'article explique en disant que le 13h rassure et que souvent le 20h alarme. Voilà, on va le dire comme ça. Hein. 17h30 sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter avec Raphaël Lanader et pour nous en parler, Mélanie Bauer.
Ayez confiance. Alors, pour bien comprendre la recherche musicale de Raphaël Lanader, il faut d'abord vous présenter quelques personnes clés de sa vie d'artiste. À commencer par sa prof, Martina Catella, professeure de chant et musicologue des Globetrotters, le centre de recherche et de formation vocale, une artiste qui analyse et communique sa passion de la voix avec humour et virtuosité.
Certainement, vous reconnaîtrez un Italien, dont je fais partie, de loin, parce qu'un Italien, avant de faire le son, fait une gestuelle et ses toniques pour que la voix sonne en tête. Vu que chez nous, le concept d'intimité, comme j'ai coutume de le dire, est d'à peu près 200 mètres. Donc il faut... Comme on sait qu'il n'y a que les aigus qui passent dans l'espace, on ne peut pas faire aiuto, ça fait pas la tête. Aiuto, ça veut dire au secours. Hein. Voilà. Si vous voulez vous faire aider, la seule manière de produire des sons aigus pour ceux qui sont faits dans la tête, c'est tout de même d'être un peu dynamique et ensuite de viser un point dans l'espace où vous espérez que votre son va aller. Et là, pom, ça peut marcher.
Elle sonne un peu comme Barbara, je trouve.
Oui. Bien sûr.
C'est assez impressionnant. Martina Catella, qui est la mère de Babix, chanteur, compositeur, pianiste, formidable personne.
Et donc, vous comprendrez pourquoi j'ai demandé à Babix de faire ce spectacle avec
moi. Oui. Évidemment, pour sa mère. Bref, formidable personne, donc tout en sensibilité, qui espionne dès l'enfance, planquée sous le piano, les chanteuses en devenir et les harmonies à venir.
Sous le piano de ma mère, il y a les pieds aquatiques des jeunes filles de l'air tombées dans la musique. Sous le piano de ma mère, il y a toutes mes cabanes, Peter Pan, gangster, toutes mes caravanes.
Babix, le complice de toujours de Raphaël, dès son premier EP, son premier album initial, celui qui lui donne sa lettre de noblesse, son fameux L. Babix, avec lequel elle fume des cigarettes en écoutant Barbara.
Et depuis, moi je fume pour me rappeler ta voix. Je fume beaucoup trop. Je fume malgré moi.
Oui, c'est une saloperie la cigarette, mais ça donne de la prestance, ça nous rapproche de la belle époque où l'on se détruisait la santé en se disant que la vie était courte et qu'il fallait en profiter pour crever jeune. L'autre personne à connaître, celle qui plane sur la carrière de Elle, c'est Barbara. Oui, parce que quand on parle de chansons, il y a toujours Brel, Brassens, Ferré ou Barbara. Raphaël porte dès ses débuts l'étiquette de la nouvelle Barbara collée au front, une filiation qu'elle finit par assumer tout naturellement. Naturellement, Babix Barbara et donc ce nouveau spectacle avec Thomas Joly, Un jardin de silence qui explore la face heureuse de la chanteuse jusqu'au 3 novembre à Paris à la Scala. On en a longuement parlé tout à l'heure.
Je ne sais pas dire je t'aime. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne peux pas dire je t'aime. Je n'ose pas. Je n'ose pas, je l'ai dit tant de fois.
Raphaël est donc une chanteuse sociable qui accueille aussi bien les morts que les vivants pour de la chanson au sens noble du terme, celui de l'artisanat du verbe, de la ligne claire, de la connaissance de soi et l'amour des autres. Avec ici, par exemple, son titre Orlando, hommage aux victimes de l'attentat homophobe américain de 2016 dans une boîte de nuit, cet a cappella humain et spontané avec Jeanne Haddad, Sandra Nkake et Camélia Jordana à retrouver en vidéo sur sa page Facebook. Ça fiche un peu les poils, hein. Et un cadeau aujourd'hui, Raphaël, avec un inédit qui s'appelle « Tu viendras ». Alors je peux rien en dire forcément puisque il est sorti de votre ordinateur.
Tout à fait.
Qu'est-ce que c'est ?
Une nouvelle chanson.
Encore des copains ou ?
Je sais pas, je vous dis rien.
On l'écoute, on en parle après.
Spoiler.
Allez, on l'écoute. C'est cadeau.
Avoir semé des cailloux sur le chemin qui te reliera jusqu'à nous. Et si je me taille, c'est pour entendre l'océan chanter plus fort, c'est pour écouter dans le soir le cri des chouettes encore avant que tout déraille. Avant qu'il soit trop tard. Et tu viendras me voir. Je ne m'en vais pas. Je ne m'en vais pas. Je ne m'en vais pas pour m'éloigner de toi, de nous. De moi, tu sais. Je pars à prendre l'oxygène et la forêt comme un patois où s'égrène la vie qui part.
si je me taille, c'est pour entendre l'océan chanter plus fort. C'est pour écouter dans le soir le cri des chouettes encore, avant que tout déraille, avant qu'il soit trop tard.
Comme disait André Manoukian hier soir au concert de Cigarette After Sex, c'est une chanson qui sonne comme un vendredi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une chanson tout en douceur.
Ça se pourrait, pourquoi pas.
En dépouillement.
Avant de partir au week-end.
Ça sort.
Ça s'appelle Je reviendrai. C'est donc un inédit que vous offrez aux auditeurs de France Inter aujourd'hui. Tu viendras, pardon. Alors, il y a un prochain album
C'est le début. Septembre prochain. On rentre en studio le 10 novembre.
Et voilà pour la nouvelle. Raphaël Lanader avec nous en attendant le spectacle Un jardin de silence est en tournée à Tarbes les 10 et 11 décembre, à Saintes le 13, à Carros le 15 janvier, à l'île de la Réunion, même, chers amis réunionnais, le 21 février 2020. Vous avez l'air joueuse de partir à La Réunion.
Mais j'ai jamais été.
Ah ben voilà, c'est très bien joueuse. Alors, Raphaël Lanader est avec nous, bien sûr, et Guillaume Meurice.
Ah. Oui, douceur et dépouillement, c'est aussi le thème de ma chronique. On vit dans un climat plutôt cool en France en ce moment, puisqu'on sort à peine d'un chouette débat sur le voile qu'à Bayonne, Papy Viagra a décidé de tirer dans une mosquée. Vraiment, le problème des retraites, ça devient urgent, les vieux ne savent plus quoi foutre. Pourtant, on a mis Visorek chez Drucker pour les occuper, qui se foutaient.
Ça les a calmés un moment.
Là, ils sont stressés avec vos ivres virgules, ils se coincent une couille dans son sonotone. Ça va pas, Alex. Bon, heureusement, on a un président qui a bien pigé le problème, puisqu'il s'est dit « Bon, c'est la merde, je vais faire une interview dans Valeurs Actuelles. » On est dans une bonne logique d'apaisement. Je crois même qu'Ali Rebeilly a prévu de l'inviter pour une séance de méditation avec Christophe André et Alain Finkielkraut. Respirez, fermez les yeux. Et taisez-vous ! On a hâte. Et au milieu de tout ça, on a des gens quand même qui sont bien emmerdés. C'est le Rassemblement National, ses militants et ses sympathisants qui étaient dans les rues de Paris ce matin pour distribuer des tracts pour les municipales. Donc je les ai rencontrés. Ils ont un avis sur cet attentat. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler d'attentat?
Bon, est-ce que c'était de l'attentat? Moi, je pense pas. Je pense pas, moi, je sais pas pourquoi, mais...
C'était quoi, alors?
Je sais pas, il a perdu la tête, ou il en avait marre, ou un truc comme ça. Vous savez, les gens, aujourd'hui, ils en ont tous marre. Hein. Alors, donc, moi, j'ai pensé qu'il en avait marre. J'ai dit, tiens, ça me fait suer, ils me font suer, mais...
Un petit coup de ras-le-bol, quoi, il a eu.
Moi, je pense, oui.
Ouais, attendez, ça arrive, hein. On est des humains, un petit coup de moins bien, ça arrive à tout le monde. On fout le feu à une mosquée, on tire sur des gens, on brûle un chat. Voilà, on est des humains. Mais donc, à Bayonne, c'est pas un attentat. En revanche...
Notre-Dame, personne ne dit, mais enfin bon... Ah bah oui, Notre-Dame, oui, moi aussi, je pense que c'est un attentat. Mais non, c'est pas. Hein. Ah, moi, je pense que c'est ça. Hein.
Vous avez des preuves?
Non, aucune.
Non, mais il n'y a pas besoin. C'est un truc, il n'y a pas besoin. Je veux dire, voilà, les preuves, c'est un truc de gauchiste. Moi, je l'embaucherais à la PJ directement. Je vais vous dire, les enquêtes, ça irait beaucoup plus vite. D'ailleurs, avançons, ce matin, il y avait une militante Rassemblement National qui venait de La Réunion. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de ce monsieur de Bayonne et de son action?
Oh, il a 83 ans, il faut le laisser en paix, ce monsieur. C'est qu'il avait, ça dans la tête, quoi, le monsieur.
Ben oui, mais alors, il était en même temps au Front National.
On ne sait pas, hein. Moi, je ne sais pas, j'ai...
A priori, il a été candidat, oui.
Oui, je sais.
Ça, vous savez, alors.
Oui.
Oui, la mémoire lui est revenue comme ça d'un coup. Des fois, c'est vrai qu'on fait des micro-siestes. Puis le devoir de mémoire à l'extrême droite, c'est quand même pas la spécialité. Et donc, cette personne, qui, donc, je le rappelle, était en train de tracter pour le Rassemblement National, anciennement, donc Front National, donc de distribuer des tracts, mais...
Moi, je ne suis pas pour le Front National.
Ah bon ?
Ça dépend, parce que moi, je voudrais un gouvernement qui soit très bien.
Alors là, vous êtes en train de tracter pour qui ?
Pour le Front National.
Voilà, alors ça se passe bien. Ça se passe bien, a priori, au Front National. C'est vraiment chouette d'avoir des militants engagés comme ça. Là, je crois vraiment qu'on peut parler de dédiabolisation. Si un jour, ils ont des militants qui votent Benoît Hamon, ils auront vraiment réussi la dédiabolisation. Donc, elle ne sait pas pour qui elle va voter.
Pour l'instant, non, mais je réfléchis.
Là, vous réfléchissez avec des tracts à la main que vous distribuez aux gens.
Oui, c'est parce que le monsieur, il me téléphone à chaque fois. Je lui ai fait l'honneur quand même. J'ai dit, je vais venir. Et
puis, vous distribuez des tracts pour le Rassemblement National, mais
oui,
par gentillesse.
Par gentillesse.
Voilà, excusez-moi, mais je trouve ça plutôt sympa. Vous voyez, il y a quand même une bienveillance. Alors, le monsieur qui a fait venir la dame par gentillesse, allons le voir. C'est un des coordinateurs du Rassemblement National à Paris. Je l'avais déjà croisé lors d'une autre chronique, donc je connaissais un petit peu le potentiel. Et là, on a pu parler tranquillement donc de ce brave monsieur de Bayonne.
C'est une personne qui a pété les plombs, qui voulait au départ il voulait pas blesser des gens. C'est sûr, il a pas, c'était pas quelqu'un qui partait pour tuer des gens ou essayer de les tuer.
Il voulait incendier une mosquée.
Non, non, il voulait, enfin, il voulait mettre le feu à la porte.
Juste à la porte, vous pensez?
Ah bah oui, mais, alors après que ça prenne feu, je ne sais pas, vous voyez. Mais au départ, il voulait incendier la porte, il faut remettre les choses dans leur contexte.
Oui, c'est pour ça que j'aime bien avoir les précisions du terrain. Voilà, si on n'a pas le contexte, c'est emmerdant quand on n'a pas le contexte. Donc, bah, c'était peut-être un ancien employé de le roi Merlin qui trouvait que la porte, elle grinçait, ça l'a énervé. Bah, le mec, il est perfectionniste, il fout le feu. Ça, je comprends. C'est une piste à creuser. D'ailleurs, on va continuer si vous le voulez bien à creuser.
C'était à l'extérieur. Il voulait, la porte, elle est à l'extérieur, c'était pas à l'intérieur.
Mais est-ce que ça change vraiment quelque chose, ça?
Il voulait incendier la porte. Et il semblerait qu'avant, il avait repéré les lieux pour voir qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas, c'était pas aux heures d'affluence.
Ah bah sympa, excusez-moi. Alors attendez. Parce que ça, on est quand même sur un mec à la cool. C'est un attentat cool, je veux dire. Voilà. Le gars, il vient foutre le feu, mais il veut blesser personne. Si ça apaise pas les esprits. Bon, allez, concluons, hein, on respire, on ouvre bien les chakras.
C'était pas une fusillade, quelqu'un qui va... comme c'est arrivé, tirer sur les personnes au hasard, comme ça.
Bah, c'est-à-dire qu'après, il leur a tiré dessus, quand même.
Ah oui. Non, mais vous, si vous faites même un cambriolage et puis que vous êtes surpris, que vous êtes armé, peut-être vous allez essayer de vous sauver et tirer, c'est... Peut-être.
Eh oui, peut-être, oui, peut-être, oui, peut-être. Oui. Non, mais c'est humain. Moi, j'aime pas qu'on vienne me faire chier quand je cambriole. Je comprends tout à fait le réflexe de tirer sur les gens. Alors, heureusement, quand même, que le thème favori du Rassemblement National, c'est la sécurité, hein, je vous rappelle. Et heureusement que le dernier slogan de campagne de Marine Le Pen en 2017 était « La France apaisée ».
Merci Guillaume Meurice, c'était de toute beauté ce petit nid d'avocat.
Oui.
Effectivement. Peut-être il voulait juste entrer dans la mosquée.
Mais on ne sait pas, voilà, on a tendance à parler trop vite, je trouve.
Mais maintenant, je revois mon jugement un petit peu.
Oui.
17h44, vous écoutez France Inter par Jupiter. Nous sommes bien en France, vous êtes en 2019, des fois il faut le rappeler. Raphaël Lanader est notre invité. Chers amis, avant d'écouter la chronique de Max Bird, on va aborder cet autre sujet de société, mais plus léger. De fumer toujours, il sera question. Pour inaugurer le mois sans tabac, le paquet augmentera demain de 50 centimes. En 2 ans, plus d'1,5 million de Français ont quand même arrêté la clope. Il faut dire que le paquet coûte un poumon. 9,30 € à présent, une mesure payante pour la santé publique, d'autant que le paquet est devenu hors de prix pour les jeunes qui finissent par trouver la cibiche démodée. Reste à convaincre les autres générations.
Il n'y a personne dans cette cafette, qu'on est 2 seules connes. Ah, mais non, ils sont tous en train de cloper sous la pluie comme des pingouins, regarde, serré. Bon courage.
En plus, avec la hausse du tabac cette semaine.
Alors du coup, ça fait le paquet à combien?
Ben, en moyenne, je crois que c'est entre 7,50 € et 9,30 €.
9,30 €? Ah ben dis donc, c'est 10 €, quoi, c'est ça. 60 francs. Tu te rends compte tout ce que tu peux t'acheter avec ça?
Incroyable. Hein. D'ailleurs, avec l'équivalent de 10 paquets, moi j'ai pu m'offrir ce sublime foulard.
Oh, bon choix.
Et au lieu d'acheter un paquet par jour pendant 3 mois, avec Michel, on s'est offert un week-end en Vendée.
Et pourquoi pas?
Catherine et Liliane, bien sûr, Alex Lutz et Bruno Sanchez. Raphaël Lanader, est-ce que vous faites partie des 12 millions de fumeurs en France?
Et oui.
Et oui. Et vous fumez quoi?
Plus beaucoup.
C'est trop cher.
Je crois pas que ce soit tellement pour ça. Parce que je peux avoir un peu les poches percées, donc ça, je crois que ce serait pas tellement ma préoccupation. Mais en revanche,
vous vapotez ou bien vous fumez
des
clopes?
Non, pas du tout. Oh, j'ai essayé, je trouve ça vraiment dégueulasse.
Ouais.
Non.
De la bonne gauloise sans fil.
Par contre.
D'ailleurs, vous reprenez le titre de Garou dans votre prochain
spectacle. Voilà. J'en rêve. Et comme j'ai quand même accouché il y a pas longtemps, ça m'a permis de diminuer nettement.
Ah, c'est ça. Oui. C'est ça la motivation.
Bien
sûr. Vous chantez aussi, on l'a entendu tout à l'heure dans la chronique de Mélanie Bauer, je fume.
Vous avez arrêté pendant l'accouchement.
L'accouchement,
oui.
J'ai fait une vraie pause.
Alors, mais Raphaël Lanader, vous êtes chanteuse. La cigarette, ça modifie la voix quand même. Vous n'êtes jamais été inquiète de ça?
Si, parfois. Ouais.
Bon, enfin, ça s'entend pas du tout, hein.
C'est
pas
bien
un grain de voix.
D'avoir
de
des sujets d'inquiétude. Ouais. De toute façon, faut bien s'en trouver. Donc.
Ouais. Régine, elle avait une très belle voix.
Ouais.
Elle fumait, Barbara?
Oui, bien
on
sûr.
On voit beaucoup sur les
à l'époque, en plus, c'était conseillé. Donc,
Est-ce que vous pensez que la nouvelle clope pour les jeunes, ce serait un peu les réseaux sociaux? Ce serait la nouvelle addiction?
Ah, ça, c'est possible. Moi, j'y comprends rien. Alors, je dois, pour le coup, je sais pas.
Qu'est-ce qui vous a fait commencer à fumer, vous? Parce que c'est un signe d'adultisation. Maintenant, les jeunes trouvent ça démodé. Mais les générations précédentes, il y avait un signe d'adultisation, donc ça paraissait cool. Le cinéma nous montrait des choses, les chanteurs.
Moi, j'ai des souvenirs merveilleux. Et effectivement, des premières cigarettes, à, je sais pas, 14-15 ans, planquées, en écoutant de la musique, les premiers disques vraiment qui comptent.
Enfin, donc c'est la musique qui vous amenait à la clope.
Peut-être. Ouais. Pourquoi pas.
Ah, d'accord. Et l'interdit aussi, pareil.
Sûrement.
Ouais. Et d'autres choses ou pas? Non. Le signe d'adultisation, vous sentiez plus adulte en fumant une clope ou pas?
Oh, j'imagine, à 15 ans, ça donne.
À partir du moment où vous êtes consciente, si vous lisez le contenu de la clope, de l'addictisation qu'ils y mettent, ça ne vous pose aucun souci.
On est là pour vous culpabiliser.
Non, mais je me pose sur cette question.
Et le cancer?
Vous avez
alors
tous arrêté de fumer?
Non, moi j'avais commencé, mais c'est ça, mais on se demande. Faites ce que vous voulez.
Moi, je fume comme un pompier. Ah, voilà. je tiens à vous le dire. Voilà. Depuis l'âge de 11 ans.
Mais c'est toujours le problème des drogues. Hein. On sait que c'est mauvais. Mais on en prend quand même.
En tout cas, le tabac recule en France. Et il va reculer encore plus pendant un mois, normalement, puisque le mois sans tabac commence dès demain. Max Bird, vous êtes venu aujourd'hui nous parler. Vous êtes monsieur science avec votre cravate verte.
Oui. Alors allez-y, planquez-vous, ça y est, ils l'ont, Charline, ils l'ont.
Oui, mais quoi donc?
La suprématie quantique. Voilà. Google a déclaré avoir atteint la suprématie quantique, ça y est.
Alors Max, attendez, parce que c'est quoi la suprématie quantique?
Je sais pas, mais il y a suprématie, il y a quantique dedans, donc à mon avis, ils viennent pas de développer la nouvelle application pour que les téléphones fassent des proutes. C'est génial d'ailleurs cette application, hein. T'as pris, ça fait proutes. Mais à mon avis, là, on est sur un autre level. Voilà, mais je me suis renseigné sur la suprématie quantique et en fait ça va. Ils ont juste développé un ordinateur très puissant dont le microprocesseur fonctionne selon des lois quantiques permettant de réaliser en seulement quelques minutes des opérations complexes que même le meilleur ordi du moment mettrait 10 000 ans à résoudre. Donc il n'y a vraiment pas de quoi paniquer.
Calmez-vous, Max. Attendez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche?
On a créé l'anneau unique, on a réuni les 5 pierres d'infinité. Charline, c'est trop de pouvoir d'un coup, on est foutu, vous comprenez?
Mais attendez, redescendez un peu, essayez de nous expliquer quand même.
Pardon. Pour vulgariser, rappelons comment fonctionne un ordinateur classique. Voilà, c'est une grosse machine qui calcule sans cesse plein de trucs très vite. Et il a comme unité d'information de base le bit. Un bit, c'est soit 0, soit 1. Le binaire, quoi. Hein, le courant passe ou il passe pas, c'est ouvert ou fermé, soit oui, soit non, c'est méga simple. Le processeur quantique, lui, il n'utilise pas comme unité le bit, mais le bit quantique, qui lui a l'extraordinaire capacité d'être à la fois 0 et 1.
Génial.
Voilà. Donc, comme l'expérience du chat de Schrödinger, vous voyez, on met le chat dans une boîte et comme on peut pas le voir ni l'entendre, eh ben, on peut pas savoir s'il est vivant ou mort, son état est donc à la fois vivant et mort.
Quoi, vous voulez dire que Google tue des chats pour ses expériences?
Mais autre exemple. Par exemple, quand on pose une question à Emmanuel Macron, dans sa réponse, il n'y a pas une réponse, il y en a deux. Il y a « je suis d'accord » et en même temps « je suis pas d'accord ». Voilà, il dit tout et son contraire. En fait, Macron est un président quantique. C'est la fameuse pensée complexe de Macron, à mon avis, c'est ça. Ma théorie, c'est que c'est un cyborg que Google a créé. Et ça se voit à ses yeux.
En quoi c'est une bonne chose que les 0 et les 1 soient confondus alors?
Pour bien comprendre la révolution que ça implique, représentons-nous un problème mathématique comme un labyrinthe géant. Avec des bits normaux, à chaque intersection, il faut décider droite ou gauche. Voilà, donc le bit doit explorer une à une chaque direction, revenir en arrière, partir de l'autre côté. Tac. Et au bout d'un moment, il a exploré tout le labyrinthe, il a fallu 10 000 ans. Il peut pas aller plus vite. Ouais. Mais le bit quantique, lui, à chaque intersection, paf, il part des deux côtés à la fois et rebelote à chaque intersection et tac. 3 minutes 20, top chrono, au lieu de 10 000 ans.
Oh.
Ça calme. Donc, on se demande tous, qu'est-ce qui va se passer? Avec une telle puissance de calcul, on peut s'attendre à un bond exponentiel dans tout domaine impliquant des algorithmes informatiques, c'est-à-dire presque tous aujourd'hui. Autant les prévisions météo que la bourse, les intelligences artificielles, la médecine, les sciences sociales. En fait, l'ordinateur quantique pourra tout calculer en intégrant toutes les variables possibles et imaginables. On pourra enfin savoir si une accompagnatrice voilée à une sortie scolaire représente ou non un danger à une sortie scolaire. Voilà, c'est... Mais ça, ils ont déjà demandé à l'ordinateur et il a dit non. Donc voilà, maintenant on peut passer à autre chose peut-être. Mais voilà, c'est ça le risque. On a créé l'ordinateur Dieu. Et Google serait le prêtre qui relaie la parole de l'omniscient, la vérité absolue. Donc Google pourra très bien nous dire, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Et nous, on pourra juste faire, d'accord. Voilà. Et après, tu peux toujours le contester. Hein. Tu peux toujours. Pour ça, t'as juste besoin d'un papier, d'un crayon et d'un milliard d'années. Ça va. Mais rassurez-vous, on n'y est pas pour tout de suite. Pour l'instant, les calculateurs, ils sont pas encore super fiables. Ce sont des énormes machines qui fonctionnent sous des conditions très, très, très contraignantes. Là, pour l'instant, ils s'envoient des photons dans des processeurs microscopiques à moins 273 degrés Celsius, tout en récitant des versets sataniques dans un mégaphone à la pleine lune avec de la feta dans les narines. Voilà, c'est très technique encore. C'est très compliqué. C'est pas prêt à être commercialisé à grande échelle. Toujours est-il que les chercheurs de Google semblent bien avoir réussi ce que beaucoup ont tenté avant eux. D'ailleurs, IBM conteste en disant que Google n'a pas vraiment réussi et que eux ils y sont presque. Mais bon, a priori là, c'est devenu un concours de bites.
Max Bird, merci Max. Je rappelle qu'il y a votre chaîne YouTube à 600 000 abonnés à laquelle on peut se référer et vous publiez un très bel ouvrage qui s'intitule Mythes et légendes cultes revisité avec humour par Max Bird. C'est paru chez
avec
First.
Amour, mais avec humour aussi.
Ah oui, pardon, c'est avec amour, c'est juste, mais avec humour aussi, ça c'est sûr. Paru chez First Edition, vous expliquez les différentes mythologies. Il y a même la mythologie japonaise.
Oui, il y a toutes les mythologies.
Mythologie grecque, évidemment, les Aztèques.
Je publie très vite une vidéo, publier une vidéo sur ma chaîne pour expliquer un peu le contenu sur le bouquin. Et il y a mon One Man Show, l'encyclospectacle, qui est au Casino de Paris, donc le 10 septembre, et en tournée dans toute la France.
Quelle actualité. Ouais, mythes et légendes cultes. Max Bird, édition First. Raphaël Lanader est en notre compagnie. Abordons ce dernier sujet, car Johnny est mort depuis 2 ans, et il a déjà sorti 2 albums posthumes. L'art ne connaît pas la mort, le commerce non plus. Maria Callas chantera à Athènes les 11 et 12 novembre par le truchement de son hologramme, où on apprend que l'hologramme de Dalida fait des miracles, elle ne louche plus. Show must go on.
En France, à Drouot, les enchères concernant des objets ayant appartenu au chanteur Johnny Hallyday continuent. Ce matin, un fan a obtenu un objet très convoité.
Ça, c'est un rêve. C'est la dernière sonde gastrique de l'hôpital où il était Johnny. Et grâce à ça, ma femme et moi, on va pouvoir toujours continuer à lui lécher le cul.
Bon, c'est Groland, hein, donc, Raphaël Lanader. Oui, c'est la société du
ces trucs-là, on se doute.
La société du spectral, ça s'appelle ce long dossier dans le supplément L'Époque du journal Le Monde, où on explique que les artistes ont une carrière posthume très très chargée pour certains. Où se place pour vous la frontière entre l'hommage et le business? Je rappelle que vous reprenez Barbara, qui a
c'est plus élégant
tellement
que le son qu'on écoute.
Pas dans le business.
On va pas sortir d'album, et quand bien même, je pense qu'il se vendrait pas à 100 000 exemplaires. Ouais. Combien? Non, plus, bien plus d'ailleurs.
Johnny, c'est plus de 600 000 déjà. Hein.
Voilà. Ouais. Je crois que là, on est mal barré.
Il faut attendre que ça devienne un classique. C'est-à-dire que Barbara, c'est un classique. Johnny Hallyday, il est pas mort depuis suffisamment longtemps pour être un classique. Ouais. Je pense que c'est à ce niveau-là que ça se place.
Et est-ce que ça se place aussi quand l'artiste a une carrière qui peut être soupçonnée déjà d'un peu commercial de son vivant, et que cet aspect-là perdure après la mort? Par exemple, Barbara Ferré ou Brel, quand il y a un album qui ressort.
Non, je pense qu'aujourd'hui, si on faisait un grand Tino Rossi show, ce serait un classique.
C'est possible. Après, Brel, ils avaient sorti un album posthume quand même.
Non, ah, c'est possible.
Avec quelques inédits sublimes d'ailleurs. Mmh. Et puis, pour moi, ça, c'était tout à fait OK.
Non, il y a ceux qu'on valide et ceux qu'on valide pas.
Sûrement.
Oui. On appelle ça un album blanc. Donc quand ça sort après.
Ça c'est les Beatles.
Ah mais il y a eu un Claude François aussi.
Ah, oui, je le connais.
Clou blanc.
Raphaël Lanader, Alex Vizorek va vous soumettre au feu roulant des questions du Parjupis Proust.
Parjupis Proust spécial Barbara aujourd'hui. Sur une échelle de 1 à 10, comment trouviez-vous Depardieu dans son hommage à Barbara?
Ah, 8.
8. Sur une échelle de 1 à 10, comment trouviez-vous Patrick Bruel dans son hommage à Barbara?
C'est vache.
Je l'ai pas vu.
Oh là là. Chenot Joker. Pensez-vous que c'est au petit bois de Saint-Amand que se cache Xavier Dupont de Ligonnès? Ça se pourrait. Son vrai prénom, c'était Monique. Quel prénom auriez-vous détesté porter?
Peut-être que Monique, ça m'aurait pas plu beaucoup.
On garde Monique, oui, c'est bien. Si vous deviez prendre quelque chose à Barbara, ce serait son talent d'auteur, de compositeur ou de chanteuse?
Auteur, certainement.
Pour passer une semaine, vous choisissez...
Attendez, est-ce que vous avez prolongé? Pourquoi? Auteur. Oui, mais pourquoi?
Pourquoi auteur? Parce que je trouve que c'est extraordinaire, ces mots, parce qu'ils sont d'une très très grande simplicité et qui ravagent le cœur.
Ça se sentait que c'est ça que vous vouliez dire.
Ouais. Vous aimez bien ravager le cœur. Ah.
Pour passer une semaine, Nantes, Göttingen ou Marienbad?
Pour passer une semaine entière?
Oui.
Pas facile.
Ah non.
Longue semaine, dans les trois cas. Marianne Bad.
Okay. Dans quel pays se trouve Marianne Bad?
Je ne sais pas.
République tchèque. Sur la carte de l'Allemagne, sauriez-vous placer Göttingen?
Non.
Bah, c'est entre Northeim et Kassel.
Quelle culture, hein. Incroyable.
À quel homme ou femme politique diriez-vous quand reviendras-tu?
Il faut qu'il soit mort. Alors à Christiane Taubira.
Ah bah ouais, Brassens n'aimait pas que Barbara reprenne ses chansons. Qui n'aimeriez-vous pas voir reprendre vos titres?
Oh, j'aimerais beaucoup qu'on reprenne mes titres, ça m'amuserait, même si je ne suis pas fan de la version.
On reçoit bientôt Matt Pokora, on transmettra. Barbara a composé et interprété une chanson pour la campagne présidentielle de François Mitterrand en 81, Regarde. Est-ce que vous êtes prêt pour 2022 avec Emmanuel Macron?
Oui, bien sûr. J'attends que ça.
Et la dernière, votre plus belle histoire d'amour, c'est qui?
Dans la vie artistique, je sais pas, c'est trop difficile, j'en ai tant.
Merci Raphaël Lanader d'avoir passé cette heure avec nous. Si vous réécoutez l'émission en podcast, vous entendrez l'inédit que nous a offert Raphaël Lanader. En attendant, vous pouvez la voir à la Scala de Paris jusqu'à dimanche dans Un Jardin de Silence avec Thomas Joly et Babix. Et puis vous êtes en tournée, vous passez par Lille, par Bayeux, Tarbes, Saintes, Rouen, Carros, l'île de la Réunion, Genève en Suisse le 25 avril et d'autres dates à venir. Merci elle.
Merci beaucoup.
À demain, nous recevrons l'auteur et metteur en scène de théâtre, Jean-Philippe Daguerre.
C'était pas ma guerre!